Bonjour, bienvenue à Culture et Politique sur Radio Courtoisie. Richard Haddad au micro avec Pierre-Henri, comme tous les lundis à 17h.
Bonjour Richard, bonjour à tous les auditeurs, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Culture et Politique.
Alors aujourd'hui, au programme, l'Europe sous menace islamiste. Et pour traiter de ce sujet, nous recevons Fadila Maroufi. Bonjour madame.
Bonjour,
merci
monsieur.
D'avoir bonjour, répondu à notre invitation. Vous êtes la directrice de l'Observatoire européen des fondamentalismes. Vous êtes basée en Belgique et vous travaillez donc sur le sujet, entre autres, de l'islamisme. Et donc, ma première question, j'ai envie de commencer, parce que vous êtes en Belgique et nous savons tous ce qui se passe en Belgique avec ces derniers temps. Et ça fait un moment hein, que la Belgique est très, très enfoncée dans ce problème. Quel est pour vous, parce que vous travaillez sur tous les pays européens et même dans le monde, hein, et quel serait le pays le plus en danger aujourd'hui en Europe en danger, je veux dire, face à la montée de l'islamisme?
Alors, je dirais que tous les pays européens sont en danger par rapport face à la menace islamique. La seule différence, c'est qu'on a des pays qui sont beaucoup plus touchés que d'autres, notamment l'Angleterre, la Belgique, que j'estime être des pays qui sont tombés sous les mains, notamment Bruxelles, tombés sous les mains des islamistes. Ça, on peut le percevoir. Il y a eu pas mal de sujets qui ont été traités là-dessus. Et notamment parce qu'à Bruxelles, nous avons les institutions européennes qui sont très importantes. Et donc, on sait qu'il y a une influence énorme sur les autres pays européens à partir de Bruxelles. C'est pour ça que l'Observatoire européen des fondamentalismes se trouve à Bruxelles, parce qu'on estime que le danger viendra toujours de la Belgique. D'ailleurs, on l'a bien vu avec les attaques au Bataclan. Les terroristes, ils venaient de Belgique, justement, notamment de Molenbeek, qui est une des communes bruxelloises sur les 19 communes.
Il y a maintenant un bourgmestre qui est... C'est ça, on dit bourgmestre en Belgique,
oui,
je me trompe
pas.
Oui,
tout à fait.
Qui est issu des Frères musulmans, une femme, il me semble, non?
Alors, on a plusieurs... En fait, il y a... On a des élus très nombreux qui sont liés au frérisme, qui sont des fréristes ou frères musulmans. On a des communes où vous avez un frère musulman qui est maire. Je ne vais pas le citer pour histoire et d'éviter des procès, parce que les djihad judiciaires, j'en ai quand même pas mal derrière. Et je peux
parce
vous dire que
réfute,
ça coûte.
En fait, c'est ça, ils réfutent.
Parce qu'ils ne le disent pas et qu'on le sait surtout après de nombreuses années de recherche, pour ce qu'on les a suivis, etc. Donc on voit et on connaît leurs demandes. Voilà. Et vous avez notamment Molenbeek, où là, c'est vraiment un des premiers bastions, on va dire, qui a été le plus touché. Parce qu'il y avait au départ un maire, donc un bourgmestre, qui était favorable, en tout cas, pour une question électoraliste, un peu comme les LFI en France. Mais on a eu ça il y a quelques décennies, en fait, en Belgique. Ça avait déjà commencé en Belgique, notamment par M. Philippe Moureau à Molenbeek, ce qui a permis de laisser de plus en plus prospérer l'islamisme. Mais ça s'est étendu, et ça ne veut pas dire que d'autres communes n'étaient pas non plus touchée, mais disons qu'elle était beaucoup moindre que Molenbeek. Par contre, maintenant, quand vous allez circuler sur Bruxelles, vous verrez qu'on est quasiment à 9-10 communes sur 19 communes bruxelloises qui sont vraiment touchées, un peu comme à Molenbeek.
Alors, concrètement, en fait, quand vous dites qu'une commune ou qu'un territoire est tombé aux mains des islamistes, cela se traduit par quoi et comment, en fait?
Alors, ce qu'on dit généralement, c'est... Une ville est charia compatible, c'est-à-dire que ce sont les normes islamiques qui prennent le dessus. Et on le voit notamment sur, vous avez des horaires de piscine, par exemple, séparés pour les hommes et pour les femmes. Il y a des revendications notamment pour le port du voile. Mais on voit surtout que c'est devenu une norme, que tout le monde s'est normalisé, que les gens ne se posent plus la question s'il faut ou pas porter le voile. Vous avez quelques personnes laïques qui essayent encore de se mobiliser, de se battre. Mais ils sont marginalisés et on voit bien que parmi la population belgo-belge, on voit que c'est tellement devenu normal que finalement, il n'y a plus vraiment de réaction. C'est ça, quand on parle d'un pays qui est tombé, c'est qu'on ne réagit plus à ces normes qui, il y a encore 20-30 ans, on aurait remis en question en disant on veut encore garder un espace neutre où on respecte l'égalité entre les hommes et les femmes. On voit que maintenant, tout ça, en fait, est complètement effacé. On voit de plus en plus des quartiers où vous avez quasiment plus que des boutiques ou des épiceries, des restaurants halal, où on évite aussi de servir de l'alcool, parce qu'on sait très bien qu'on va avoir des problèmes avec les gens du quartier, etc. etc. Donc, quand on parle de tomber, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'accepte plus facilement les normes islamiques et qu'on les remet plus en cause, sous peine évidemment d'avoir des poursuites, des djihad judiciaires, sous peine de perdre son emploi, d'avoir du harcèlement, de se faire agresser, etc., etc. Et on le voit de plus en plus, on le voit notamment aussi depuis le 7 octobre avec la montée de l'antisémitisme. D'ailleurs, il y a encore quelques jours, vous avez vu cette attaque contre une synagogue à Liège.
Il y en a eu une autre aux États-Unis,
il y en a eu aussi à Rotterdam, il y en a eu en Grèce, avec des revendications, des vidéos de revendications de propagande, ce qui est un appel, parce que jusqu'à présent, en Europe, il n'y a pas eu encore de victimes, on va dire, avec ces attaques-là récemment, mais ce sont des appels, ça veut dire qu'il y a à craindre à ce qu'il y ait des prochaines attaques, ce soit des attaques qui risquent d'amener des morts. Et vous l'avez dit, à Michigan, vous aviez quand même, on a attaqué une école.
Mais ce n'est pas un hasard, à Michigan, parce qu'il y a une ville à côté de Détroit qui est une ville chiite, qui s'appelle Dearborn, et c'est une ville totalement chiite.
Donc, tout le conseil municipal est musulman, et dès qu'ils ont pris justement ce conseil municipal, ils ont commencé justement à changer en fait les règles de vie locales et à imposer, comme vous le dites, eh bien, des normes charia compatibles dans leur municipalité.
Et ils ont évincé tout ce qui était LGBT, qui était avec eux au départ, qui était pro, etc. Oui, c'est un peu ce que l'Ayatollah Khomeini a fait avec la droite. Avec la gauche. Et ce qui fait qu'on l'a vu aussi en Belgique, c'est pareil. En fait, partout où ils vont, ils fonctionnent de la même manière. C'est-à-dire qu'ils créent des alliances, comme ils le font aussi en France avec LFI. Et une fois qu'ils arriveront au pouvoir ou qu'ils arriveront à des postes clés, à ce moment-là, ils vont, on va dire, liquider les personnes qui pourraient déranger.
En fait, ces alliances, chacun pense exploiter l'autre. Parce que l'extrême gauche aussi n'est pas dupe. Hein. Ils savent très bien qu'ils ne sont pas, que ces gens-là ne partagent pas leurs idées.
Pas des amis,
mais chacun d'eux, comme vous l'aviez dit, il y a des maires. Alors, il y a des maires de gauche, mais il y a aussi des maires de droite qui ont fait du clientélisme comme ça. Mais en tout cas, s'agissant de la gauche ou de l'extrême gauche, effectivement, ils pensent récupérer des voix. Ils pensent que ces gens-là sont les idiots utiles, sauf que les autres aussi pensent que l'extrême gauche est l'idiot utile. Et malheureusement, comme vous venez de le dire, c'est la loi du nombre. Hein. Donc je pense que comme ils sont les plus nombreux, je parle des islamistes, finalement, quand ils arrivent, quand ils sont majoritaires, à un moment donné, ils excluent l'extrême gauche. Mais
au départ, ils ne sont pas si nombreux que ça. Ils sont stratégiques, ils sont très fins. Donc la gauche pense que les autres sont les idiots, mais pour le coup, les islamistes savent que les autres sont les idiots parce qu'ils sont capables de révéler leur fierté, de faire croire qu'ils sont effectivement des idiots pour obtenir ce qu'ils veulent. Par contre, ils influencent et ils ne se rendent pas compte qu'ils manipulent parce qu'il y a un jeu de perversion du discours, etc. Et c'est là où la gauche se fait avoir, ou même parfois la droite, comme vous le dites très bien, parce que c'est vrai que ça ne touche pas que la gauche. Les islamistes vont là où il y a possibilité d'avancer leur projet. Donc si demain, la droite ou l'extrême droite leur permettrait d'avoir des voix ou une gagnée en puissance,
ils iront aussi.
Évidemment, puisque ce n'est pas leur objectif. Leur objectif, c'est de mettre des femmes et des hommes partout qui peuvent être influençables, là où ils pourront justement amener des normes islamiques un peu partout et qui puissent les installer.
Je confirme ce que vous dites, parce que le régime iranien est un régime inspiré des frères musulmans, même s'il est chiite, c'est totalement frère musulman. Et il n'a pas infiltré que l'extrême gauche, il a infiltré aussi l'extrême droite en France, par le biais, parce que vous savez comment ça fonctionne. Il cherche le point faible. Quand j'ai l'extrême droite, de manière globale, je ne parle pas de tout ce qu'on appelle, parce que maintenant tout le monde est d'extrême droite en France, vous savez bien, il suffit de critiquer l'extrême gauche et on est d'extrême droite. Mais il y a une certaine extrême droite qui a été infiltrée par le régime iranien, et qui a détecté son
les
point
failles.
Faible, les failles, les juifs, etc. Et hop. Et ça marche très très bien. Donc ils infiltrent les deux. Mais vous avez cité l'Union européenne en parlant de Bruxelles. J'ai entendu à plusieurs reprises, il y a eu plusieurs accusations de sur l'infiltration des frères musulmans ou de l'islamisme de manière générale dans les institutions de l'Union européenne
ou de certains États comme le Qatar qui ont largement financé ou fait passer des pots de vin.
Vous avez pu enquêter sur ça, sur le degré d'infiltration de ces gens.
Alors on connaît déjà les institutions qui en font partie, que ce soit l'ENARC, que ce soit le FEMISO. Donc le FEMISO, c'est une institution qui regroupe tous les étudiants musulmans européens, d'universités européennes. Vous avez l'ENARC, qui est une grande structure aussi, qui a été financée depuis plusieurs années à des millions d'euros pour évidemment financer d'autres projets, d'autres associations et qui sont liés par exemple à l'ex-CCIF qui est devenu le CCIE qui est installé à Bruxelles d'ailleurs. On se demande pourquoi. On a vu d'ailleurs, pour faire une petite bifurcation, mais Equisen qui avait été expulsé de France est venu se réfugier en Belgique et ce n'était pas pour rien non plus. Donc, parce qu'il y a, si vous voulez... Les frères musulmans travaillent de manière transnationale, ils ne travaillent pas uniquement nationale. Contrairement à nous, on se focalise sur notre propre pays et on se regarde le nombril.
On ne reconnaît qu'une nation, vous le savez bien,
voilà,
c'est l'Oumma islamique.
Exactement. Donc, c'est pour ça que j'estime que c'est très important de travailler aussi entre pays européens, parce qu'ils ont compris notre faiblesse. Et c'est une faiblesse en réalité que de s'auto-regarder toujours le nombril. Et c'est pour ça que Bruxelles est une faiblesse et c'est pour ça que Bruxelles est complètement noyautée par les frères musulmans. D'ailleurs, vous avez aussi une coordinatrice de lutte contre l'islamophobie au niveau européen et il serait intéressant d'enquêter aussi sur cette personnalité, d'où elle vient, d'aller regarder, chercher son background. On voit qu'elle sert en fait les frères musulmans aussi et tout l'agenda frériste.
Mais au sein, pardon.
J'ai déjà une idée de la réponse, mais est-ce que l'équivalent existe au niveau des institutions européennes sur la christianophobie ou la judéophobie ou l'antisémitisme ?
Alors, il y a des demandes pour que ce soit le cas. Il y a des groupes...
Mais ça n'existe pas encore.
Mais il y a des groupes qui luttent, par exemple, contre l'antisémitisme, etc. Mais même ça, on va revenir parce que moi, ça me pose quand même question. Je pense que c'est une grave erreur, en fait, que de vouloir surenchérir sur ce qui existe déjà. Parce que les frères musulmans, évidemment, ça, c'est du pain béni pour eux. Ça veut dire qu'on les reconnaît.
Absolument. Oui.
Et justement, il faut éviter ce cas de figure-là parce que nos pays, en Europe, que ce soit la France, la Belgique, on a déjà des lois qui permettent de lutter contre l'antisémitisme, contre les discriminations,
toute discrimination,
que ce soit concernant les musulmans, que ce soit les chrétiens, que ce soit les juifs. Par contre, là où c'est problématique, notamment par rapport à la lutte contre l'antisémitisme, c'est qu'il faut absolument que les gens comprennent qu'il faut lutter contre les causes de l'antisémitisme. Parce que l'antisémitisme actuel n'est pas celui d'il y a 40, 50 ans. Ou avant, c'est clair que notre mémoire collective, après 45, on s'est dit qu'il y a un fascisme qui a évidemment été la cause de la Shoah, qui a eu haine contre les Juifs. Mais depuis 30 ans, celui qui a évolué en toute discrétion au départ, c'est l'antisémitisme islamique. Et tant qu'on ne parle que d'antisémitisme, sans nommer d'où il vient, en fait, on perd vraiment les citoyens qui, finalement, dans leur conscience collective, on ne voit toujours que le même, celui d'extrême droite, que finalement, plus personne ne sait même plus qui est l'extrême droite, qu'est-ce que ça signifie.
On va faire une pause pour le bobinon, on va reprendre sur les institutions européennes, parce que j'ai encore une question à vous poser là-dessus.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors, on reprend donc l'émission. On était en train de parler donc des institutions européennes. Et j'ai une question. Est-ce que vous avez dit les maires, ils font des alliances, ils font du clientélisme. Parfois, l'extrême gauche, ça va plus loin. Mais au sein de l'institution des institutions européennes, est-ce qu'ils en sont conscients et ils le font parce qu'ils ont un intérêt à travailler avec des groupes islamistes ou est-ce qu'ils sont totalement inconscients?
Ils sont complètement inconscients. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que quand vous êtes à Bruxelles, vous avez le lieu où sont situées les institutions européennes, qui sont comme un petit village. Ce sont des gens qui sont généralement qui gagnent énormément, enfin qui gagnent bien leur vie, plus que la moyenne des Bruxellois. Donc ils sont sur un nuage en fait. Ces gens-là ne connaissent pas du tout le terrain. Par contre, comme les frères musulmans, ça fait depuis plusieurs décennies qu'à Bruxelles, ils ont évidemment infiltré, noyauté les institutions bruxelloises, les tissus associatifs, les universités. Ils ont compris que au niveau de l'Union européenne, ils demandent des interlocuteurs, ils ont besoin d'interlocuteurs. Comme vous avez des associations qui ont déjà été noyautées et qui ont reçu déjà des subventions de l'État belge, quelque part, ils servent de relais auprès des institutions européennes. Donc quand ils proposent un projet, puisque l'Union européenne fait appel à des personnes locales, c'est-à-dire vont chercher des associations, vont dire nous on aimerait bien travailler sur la lutte contre le racisme ou la lutte contre la haine du musulman. Et quand ils vont aller chercher
ils passent par le biais de l'antiracisme.
Exact, oui, tout à fait, tout ça. Et vous avez donc tous ces groupes, ces associations qui ont déjà été légitimées par le gouvernement belge. Donc les institutions européennes se disent, comme ils sont déjà validés par cet organisé, par l'État, donc ce sont des gens qui sont fiables.
Donc il n'y a aucune vigilance.
Donc il n'y a pas de vigilance, donc on fait confiance et on leur dit, nous avons autant d'argent pour tel projet, est-ce que vous êtes preneur du projet, est-ce que vous voulez travailler avec nous? Donc évidemment, ces personnes viennent pour ça. Et c'est comme ça qu'ils influencent à l'intérieur, qu'ils disent, si vous voulez lutter contre le radicalisme, par exemple, le djihadisme, il va falloir lutter contre l'islamophobie, parce que c'est l'islamophobie qui est la cause du djihadisme.
Le carburant du djihadisme.
Voilà, donc on inverse. Et c'est pour ça qu'à Bruxelles, vous allez avoir notamment des formations pour lutter contre le djihadisme ou le radicalisme. Et donc, quand vous allez dans des institutions, on vous dit, on va vous former. On forme les gens et on leur dit, si vous voulez que votre collègue ne soit plus radicalisé, essayez de comprendre ce que c'est que l'islam c'est le vivre ensemble, laissez-lui avoir un lieu de prière. Et c'est comme ça que les normes islamiques gagnent. Et c'est exactement comme ça que ça se passe à plus grande échelle, on va dire au niveau européen. C'est-à-dire qu'on leur vend pour le vivre ensemble, pour l'inclusion, etc. Et les islamistes sont prêts à s'associer même avec les groupes LGBT. C'est pour ça que vous avez maintenant les LGBT qui vous disent « Free Palestine », etc. Mmh. Parce qu'en réalité, ils sont aussi noyautés par ces groupes.
En fait, ce que vous avez dit il y a quelques instants, c'est qu'ils sont beaucoup plus intelligents et beaucoup plus stratèges.
Malins, que
l'extrême gauche. Et n'en parlons pas que des institutions européennes. En fait, les plus malins, c'est eux. C'est les plus rodés, les plus... En position de conquérir, ils sont en position de conquête du pouvoir.
En fait, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que les gens qui sont issus de ces mouvements-là fréristes sont des gens qui ont étudié tout notre système. Ils ont pris plus de 40 ans pour l'étudier, donc ils nous connaissent mieux que quiconque. Donc, quand vous avez, par exemple, des rencontres interconfessionnelles où vous avez un rabbin, un prêtre et un imam qui se rencontrent, généralement, vous avez un frère musulman qui est là. Et alors, quand vous posez la question au rabbin ou au prêtre, vous leur dites, ils vous disent, c'est pour apprendre à se connaître. Et moi, je leur dis toujours, non, c'est pas le cas. Vous peut-être, mais eux, ils vous connaissent mieux que vous-même. Ils savent déjà comment vous fonctionnez. Ils veulent vous utiliser pour se légitimer. Et après, ils vont vous dire... Mais nous, regardez, on est pour le vivre ensemble. D'ailleurs, on fait des iftars le soir, etc. Ce sont des cadeaux empoisonnés pour justement montrer d'abord à la population musulmane, ils envoient, c'est le double discours, ils envoient une information en disant, vous voyez, on a déjà pris l'église, par exemple, parce que souvent les iftars, on les fait dans les églises. Mm-hmm. On dit, l'église, elle nous appartient, c'est fini. On a mis un pied dedans, elle nous appartient.
Pour rappeler, dans l'islam, ce qu'on appelle la terre d'islam, c'est-à-dire à partir du moment où ils font... un acte religieux dans un lieu, il devient terre d'islam.
Exactement. C'est comme le fait qu'il y a eu l'invasion islamique jusqu'à Poitiers. Pour eux, c'est des terres d'islam reconquérir, tout simplement.
Absolument.
Et donc, ils font exactement la même chose pour le reste. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une certaine naïveté, aussi bien dans la communauté parfois juive que chrétienne. C'est qu'on a des gens qui, eux, veulent vraiment vivre ensemble, mais qu'en face, ils ont des loups qui sont rusés, qui savent qu'ils connaissent leurs failles et leur système, et donc ils essayent par ce biais-là justement de gagner du terrain.
Vous avez parlé du double langage qui est très courant dans ce genre d'organisation, enfin dans l'islam de manière générale, mais il y a la taqiyya aussi, donc je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie que la taqiyya dans le Coran, c'est la dissimulation. Donc ils ont le droit, dans l'islam, on a le droit de pratiquer la dissimulation, si on est en position de faiblesse.
Pour faire avancer la cause.
Pour faire avancer la cause, et si on n'est pas en position de force pour imposer sa religion. Et donc, ils utilisent aussi la dissimulation, j'imagine.
Tout à fait. La ruse, la dissimulation. En fait, ils ont un seul objectif. L'objectif, c'est le califat mondial.
Oui.
Après, tout le reste, ils doivent user de stratégies, user de tout ce qu'ils peuvent. Ils peuvent mettre tout à leur pouvoir, tout est disponible à leur pouvoir pour arriver à cet objectif califal. Donc s'ils font des choses pour Allah, pour cet objectif-là, alors ils peuvent le mettre en marche, leur programme. Et ils vont tout utiliser comme méthode, peu importe ce que ça peut comporter. Voyez, donc c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment l'occidental, en fait. Nous, les occidentaux, on n'a pas vraiment la même façon de penser, on va dire, que les musulmans. Il faut bien comprendre que le monde musulman et le monde occidental n'a pas du tout la même vision du monde. Leur vision du monde, c'est tout ce qui est fait ici, c'est pour l'au-delà, c'est pour après, c'est pour le paradis. Alors que pour nous, tout ce qu'on fait, on le fait d'abord pour ici. Et c'est pour ça qu'il y a une incompréhension et qu'on s'imagine que finalement l'autre pense comme nous. En réalité, il ne pense pas comme vous. Moi, je l'ai compris parce que moi-même, j'ai été éduquée en Belgique. On a la différence avec la France, c'est que les écoles publiques, on a des cours de religion qui sont dispensés. Et donc, on a eu des professeurs de religion islamique, etc. Et moi, j'ai eu un professeur en primaire qui était un frère musulman. Je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, il y a quelques années de ça. Et donc, finalement, c'est pour ça aussi qu'on sait qu'il y a 3 ou 4 générations de jeunes enfants qui sont frérisés, issus de la communauté musulmane, et qui ne sont pas forcément non plus conscients de ça. Et c'est ça qu'il faut se dire, c'est que les personnes ne se déclarent pas frères musulmans. Moi, je l'ai découvert parce que j'ai compris, en faisant des recherches, j'ai vu qu'il a créé une école primaire, élémentaire et secondaire,
oui,
collège.
Ils avancent cachés, oui.
Exactement. Et c'est comme ça qu'on finit par l'apprendre. Mais on a été endoctriné, on a reçu l'idéologie qui nous a été inculquée, c'est l'idéologie frériste. Et ça, malheureusement, c'est pour ça que vous allez avoir beaucoup de musulmans qui vous diront de bonne foi, non, non, nous, on n'est pas frères musulmans, mais en réalité, tout ce qu'ils portent comme idéologie, c'est une idéologie frériste.
Quelles sont les actions que votre Observatoire européen des fondamentalismes mène justement par rapport à ces infiltrations-là, pardon? Quel est son rôle? Quels sont ses rôles?
Alors au départ, quand l'Observatoire des fondamentalismes a été créé, c'était parce qu'on s'était rendu compte de tout ce qui s'était produit à Bruxelles et tout ce qui était en train de se passer au niveau européen et qu'on a essayé d'alerter. On a eu évidemment des portes fermées. On s'est rendu compte que c'était beaucoup plus gangréné que ce qu'on le pensait et que l'objectif au départ, c'était de mener des recherches pour pouvoir justement montrer quelles sont ces institutions, qui elles sont, comment elles fonctionnent, etc. Il y avait un volet juridique parce qu'on savait qu'il y avait le djihad judiciaire qui était derrière et il y avait un volet aussi lanceur d'alerte.
Pardon, ce que vous appelez le djihad judiciaire, c'est-à-dire ils font en sorte de poursuivre systématiquement tous ceux qui leur mettent des bâtons dans les roues.
Exactement. Qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, ça n'a pas d'importance.
Oui. Donc c'est le harcèlement judiciaire.
C'est le harcèlement, exactement. Parce que vous, ça vous coûte.
Bien sûr.
Eux, ils sont évidemment bien organisés. Ils ont les financements.
Financièrement. Oui.
Exactement. On vous mène la vie dure pour que vous abandonniez
parce
tout simplement.
Ils ont les moyens, en fait.
Parce qu'ils ont les moyens. Voilà. Et donc, quand notre observatoire, évidemment, on est arrivé et on a donc le volet lanceur d'alerte parce qu'on s'est rendu compte que via les réseaux sociaux, on pouvait faire vraiment bouger les lignes avec les citoyens et alerter. Parce qu'on voyait bien que les politiques étaient sourds, donc le seul moyen que les politiques bougent, c'est que ça fasse du ramda sur les réseaux.
Oui, dans les médias aussi.
Exactement. Et interpeller les médias, etc. Et finalement, on a été énormément attaqués parce que tout de suite, les citoyens sont venus en soutien à l'Observatoire. Et évidemment, eux, ils voient, parce qu'ils vivent au quotidien des problèmes. On a été très vite soutenus. Et évidemment, pour les frères musulmans, au début, ils rigolaient, ils se disaient, bon, un observatoire, ils n'ont pas de pouvoir, ils ne feront rien du tout. Mais comme ils ont vu qu'on avait un impact, on a été attaqués fortement. Donc, on a eu, à un moment donné, des gens qui ont été menacés, réellement. On leur a menacé de leur casser les jambes, de leur...
Vous-même, vous avez été menacé.
Moi-même, j'ai été menacé de mort à plusieurs reprises. J'ai perdu mon emploi à cause de ça, d'ailleurs, à cause d'eux. J'ai eu plusieurs djihad judiciaires. Donc, on essaie de vous mettre dans... Et d'ailleurs, à Bruxelles, pour moi, il est impossible de travailler, parce que je suis blacklistée quasiment partout. Donc, on vous mène un combat de telle manière à ce que... Et ils savent qu'on était dangereux parce qu'ils ont compris qu'on avait compris qui ils étaient, comment ils fonctionnaient. Ouais. Et ils ne veulent surtout pas qu'on explique à d'autres, à nos services de police, de sécurité, etc., comment ça fonctionne. Et à partir du moment où quand ils vous attaquent, c'est que vous êtes vraiment un réel danger. Parce que sinon, ils ne se prendraient pas la tête. Ce sont des gens qui sont très intelligents et ils savent très bien que...
Vous ne perdrez pas du temps à poursuivre quelqu'un qui leur est pas nocif.
Tout à fait. Donc, à partir du moment où vous êtes attaqué, dites-vous, c'est qu'on leur fait du mal, c'est que vous êtes dans le bon. Par contre, si on vous laisse encore prospérer et avancer, dites-vous, c'est que, notamment quand vous avez des gens qui vous disent, nous, on est sortis des frères de la confrérie, on n'est plus du tout là-dedans, etc. Dites-vous que s'ils ne sont pas menacés, c'est qu'il y a un problème. Parce que généralement, quand vous sortez de là, vous le payez très, très cher en menaces et en toutes. Les attaques vont dans ce sens-là. Donc l'Observatoire, en fait, on mène tout ce combat-là, mais on le fait vraiment pour l'instant d'une manière bénévole parce qu'on a du mal non seulement à obtenir des financements au niveau de l'État, alors qu'on fait un énorme travail et qu'on a fait beaucoup, beaucoup avancer la cause, puisqu'on avait cofondé ça avec Florence Bergeau-Blaclair à l'époque. Et on a, par ailleurs, par la suite, on s'est dit, bon, il va falloir absolument que les citoyens s'emparent du sujet. Il faut absolument les informer. Et donc, on a cofondé le Café Laïque Paris-Bruxelles, au départ à Bruxelles, puis ça s'est étendu sur Paris, puisque les Français venaient à Bruxelles nous demander un peu le même système. Et donc,
en quoi ça consiste ce café?
Ces cafés laïques, nous invitons des intellectuels, des personnalités expertes, soit sur les questions d'islamisme, sur l'antisémitisme, sur le wokisme, etc. Et on leur demande donc de parler de tous ces sujets. Et à la fin, vous avez un débat avec questions-réponses et puis un débat avec le public. L'objectif, c'est d'armer intellectuellement les citoyens pour qu'ils comprennent à qui ils ont affaire, mais qu'ils aient aussi les arguments pour ensuite pouvoir s'exprimer s'ils sont confrontés soit à un débat ou tout simplement si dans leur lieu de travail ils sont confrontés à des gens qui sont avec des revendications islamiques.
Pardon, comment on fait pour s'inscrire à ces cafés?
Alors il y a un lien qui s'appelle, c'est www.cafla.eu, puisque le premier site a été piraté et c'est devenu un site porno. Pour tout vous dire, donc ils usent vraiment de toutes les méthodes. Et alors, tous les mois, on met à chaque fois une personnalité qui vient présenter.
Si les auditeurs de Radio Courtoisie ont envie de s'inscrire, donc répétez.
Donc
si
voilà, c'est 3xw.cafla, donc cafla.eu.
D'accord.
Et donc là, vous inscrivez votre mail et vous recevrez tous les mois systématiquement en fait une invitation.
D'accord, très bien.
Quels vont être les prochains invités?
Alors là, nous avons eu Fergan Aziari au Salon Hoche, parce qu'à Paris, ça se passe dans les Salons Hoche. Et puis à Bruxelles...
L'islam contre la modernité.
Exactement, excellent, tout à fait. Et vraiment, les débats et les discours et les échanges très passionnants. Et la prochaine ici, ça va être la semaine prochaine, le mercredi 18 mars à Bruxelles. Et nous avons déjà clôturé les inscriptions, parce qu'évidemment, c'est très très demandé. D'autant plus que là, au vu des dernières attaques, évidemment islamiste, il faut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres attaques terroristes sur nos sols un peu partout en Europe.
Alors il nous reste à peine une minute, est-ce que vous avez quand même des signaux positifs, des signes d'espoir qui viennent peut-être d'autres pays ou d'autres institutions, déjà par rapport à votre observatoire, et puis en général?
Alors ce qui est positif, c'est tout d'abord que là, avec ce qui se passe avec l'Iran, je pense que c'est très positif, contrairement à ce que beaucoup veulent faire croire, c'est que l'intervention des États-Unis et d'Israël, c'est vraiment une bénédiction pour que le peuple iranien puisse être libéré. Peu importe, évidemment, après, qu'il y ait quand même, on sait que tout pays, quand il fait une guerre, il y a d'autres enjeux aussi. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment une libération, une volonté de libérer le peuple, mais aussi d'éviter la guerre, notamment pour Israël, qui a été attaqué depuis le 7 octobre. Et on sait très bien que l'Iran y a participé d'une manière assez active. Mais ce qui est positif, surtout, c'est qu'on se rend compte que les citoyens commencent à s'intéresser, commencent à se réveiller, commencent à faire des demandes, sortent dans les rues. On voit qu'il y a une réaction aussi de nos populations. Maintenant, c'est de savoir, je pense, c'est comment mobiliser toutes ces populations pour qu'on puisse former un groupe et ne pas être dispersé chacun de son côté.
Ok. Merci beaucoup, chère madame.
C'était très intéressant, merci.
Et puis, bon courage à votre observatoire, longue vie à lui. Et puis, on se retrouve dans une semaine pour un nouveau numéro de Culture et Politique.
Merci, à la semaine prochaine.